David et Claire, bonjour.
Bonjour, Clovis.
Bonjour, Clovis.
Claire, on va commencer avec Claire. On dit toujours la femme en premier. David, tu viendras, ça sera pas long. Tu perds rien pour attendre. Claire Babineau. Mais c'était pas Babineau à l'origine.
Non, c'était Claire Boudreau, d'ici de Chédiac, oui.
La sœur de quelqu'un qu'on connaît bien.
Ah, ben oui, tous mes frères et mes sœurs sont ici à Chédiac. Mon petit frère Paul. Qui travaille pour la ville. Et ma sœur Yvette, qui a travaillé longtemps à la ville de Providence, tout à côté. Mes sœurs Joanne, Phyllis, et ma mère reste tout en haut, là dans les appartements.
Je pense que si tu t'étires un petit peu la tête, tu vas voir à la fenêtre. Elle est peut-être déjà à la fenêtre.
Absolument, elle doit être là.
David Babineau, lui, est originaire de...
Rogersville. Oui.
Petit-fils de Rogersville.
Oui.
N'en-nous d'un petit peu de lien de parenté, là, pour que les gens de Rogersville puissent te replacer comme il faut?
Eh bien, je suis le frère de Stella Galland, de Geneva Babineau, qui sont de Rogersville, de Louis Babineau, qui reste à Moncton. J'ai un autre frère qui reste à Colette et un autre à Saint-Jean, Léo et Gérald. Alors voilà, qui reste à Toronto.
Des filles éparées partout, comme on dit.
Ben oui, pas mal.
Voilà. Qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt puis pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle?
Ben, disons, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça existe depuis le Moyen-Âge, puis mon intérêt dans le chemin, ben, date presque aussi loin. C'était le Moyen-Âge pour moi. Au fait, ça date, disons, de 1958. J'étais au secondaire dans ce temps-là, un cours de littérature anglaise. On étudiait à propos de Canterbury Tales de Chaucer. Et comme tout bon professeur sait piquer la curiosité, eh bien, mon enseignant nous avait parlé de choses similaires, dont Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça fait depuis ce temps-là que je croise le chemin, donc l'intérêt éveillé, je retrouvais le chemin un peu partout. En 1989, j'étais en Espagne pour visiter des amis de la région ici, Marco Landry, et son épouse, qui est présentement médecin à Campbellton. Et nous étions dans la région de
Salamanca.
Et au hasard, on m'a fait remarquer qu'il y avait une stèle de ce que je crois être le chemin de Compostelle. Mais j'ai découvert par après que c'était un des chemins de Compostelle.
Parce qu'il y en a plusieurs des chemins de Compostelle.
Il y en a des dizaines à travers toute l'Europe. Et à ce moment-là, j'ai fait quelques pas sur le chemin de Compostelle. Et on pourrait dire que ça l'a sorti du mystère. Et ça a devenu quelque chose qui pourrait possiblement se réaliser plus tard. Et c'est en janvier, au hasard de lecture, on était au salon, j'ai dit ça, c'est-tu clair, ça m'a toujours intéressé de faire le chemin de Compostelle. Et elle m'a dit, eh bien, pourquoi pas? Et ça a commencé là. Juste comme ça.
Claire, est-ce que tu connaissais à l'époque le chemin de Compostelle?
Pas du tout. Moi, je pensais qu'on serait dans des hôtels grand luxe chaque soir.
Des cinq étoiles,
mais tout autrement.
Avec repas gastronomique.
Ben, c'était presque ça, là, en réalité. Il a piqué ma curiosité, puis aussi, parce que j'ai pris ma retraite de l'enseignement au mois de juin 2006, on cherchait aussi un projet spécial pour fêter et ma retraite et la retraite depuis 10 ans de David. Fait que ça me semblait un projet intéressant à envisager.
Mais puis, comment est-ce qu'on a passé du salon à Saint-Jean-Pied-de-Port? Il y a dû avoir... vous avez dû vous renseigner. Claire, tu ne connaissais pas le chemin de Compostelle. David, un petit peu, mais c'était loin, là. C'était dans son jeune temps, c'était au Moyen-Âge.
Justement, c'est ça. Avec des recherches sur l'Internet, quand on cherche Compostelle, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux articles. Et des fois, il y a la bibliothèque, des lectures, de rencontrer des gens aussi qui avaient déjà cheminé. Tout ça, ça se fait que ça devient de plus en plus réalité.
Mais parmi ces gens-là, il y avait Clovis et Maryse.
Moi, je me rappelle qu'une des choses que je me suis rappelé de ton passage chez nous, quand Maryse et moi, on t'a comme donné le pratico-pratique, là, c'était de le voir grincher une fois de temps en temps.
Ça lui arrive.
Et plus tard, j'ai compris le sens de cette grinche-là. Quand on voyait l'humour qu'il y avait dans ses courriels qu'il recevait. Mais quand est-ce que la décision a été prise pour dire, tiens, on y va, puis c'est telle date?
La journée qu'on en a parlé, vraiment.
Mais au début, on parlait de 2006, de 2007, plutôt l'année prochaine. Puis là, bien sûr, la motivation se faisait de plus en plus grande. On s'est dit, mais pourquoi pas cette année, en 2006? Il y a toujours les recommandations de faire le Camino soit au printemps, mai, juin ou septembre, octobre. C'est pour ça qu'on a choisi septembre, octobre 2006, tandis qu'on était encore capable de le marcher. Ça fait qu'on a commencé à se préparer à ce moment-là.
Les ben oui, il vieillit. Hein?
On prend de la maturité, mon ami. Comme le bon fromage et comme le bon vin.
Absolument, absolument.
Donc, vous avez mis vos souliers pour vous êtes préparé physiquement comment?
Mais disons que moi, j'avais certaines appréhensions. L'âge me semble là quand même. Je ne savais pas. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas tellement du type sportif, physique. Je me demandais, est-ce que je suis en santé suffisante pour faire le voyage?
Et ben, c'est seulement 800 km.
Ben, seulement
vous n'aviez pas choisi de partir du puits. Là, vous en auriez fait 1800.
Eh bien, oui. Quand même. J'ai quand même choisi de faire une visite au médecin, m'assurer que tout était en ordre, participer au programme du cœur.
J'avais au moins certaines parties qui fonctionnaient bien.
Et entre autres, on a entrepris également le programme cœur en santé au CEPS, qui était une préparation physique.
Donc, ça demande quand même une préparation physique, c'est indispensable.
Absolument.
Enfin, disons que ça nuit pas de le rendu là. Mais je reprends certaines statistiques, là. Je te donne pas ton âge aux auditeurs et auditrices, mais il y a 18 000 pèlerins âgés de 40 à 60 ans en 2001, puis les chiffres ont certainement augmenté, oui. 4 500 pèlerins de plus de 60 ans et 451 qui étaient plus âgés de plus de 70 ans.
Descend quand même.
Donc, on n'est pas obligé d'avoir 30 ans puis d'être en pleine forme pour faire le chemin de Compostelle.
Non, j'étais vraiment surpris de voir de personnes de tout âge sur le chemin. Il y avait des poupons dans des sacs sur le dos de leurs parents. Il y avait des jeunes de 10, 11, 12 ans. Il y avait des adolescents, il y avait des jeunes qui terminaient leurs études avant de prendre une décision de carrière dans la vie. Et il y avait des personnes à la retraite en grand nombre.
Quand vous avez préparé votre chemin de Compostelle, vous avez préparé vos souliers, mais il devait quand même avoir certaines craintes face à ça, certaines réticences face à l'inconnu. On va écouter Félix Leclerc, puis après, quand on reviendra, peut-être vous pourriez nous parler justement de ces craintes ou ces appréhensions-là face au chemin de Compostelle. Quand on fait le fait de savoir qu'on va marcher 800 km, c'est déjà quelque chose. Et comment vous vous êtes... qu'est-ce que ça demande, les préparatifs d'un tel projet? Pas seulement physique, mais il y a d'autres types de préparation. Claire, comment est-ce qu'on... petite sœur de Paul, entre autres, comment est-ce qu'on se sent? Comment tu t'es senti quand David t'a proposé le chemin de Compostelle? Il doit avoir quand même certaines réticences. 800 km, c'est...
Bien, 800 km, ça sonne beaucoup, là. Faut pas y penser comme global, comme ça. En même temps, quand on se prépare, on sait qu'il faut avoir, avec nous autres, dans le sac à dos, tout ce qu'on aura besoin. Il n'y a pas de porte-bagages, il n'y a pas de service là, pour porter nos bagages. Ça fait que c'est ça le défi ou la préparation. Il faut premièrement se trouver un bon sac à dos qui est bien ajusté. Aussi les souliers de marche, ou il y en a qui préfèrent des bottines de marche. Moi, personnellement, c'était des souliers de marche. Alors, prendre le temps de les trouver. Et après ça, j'ai dû faire mon sac à dos une dizaine de fois parce que il faut peser chaque once qu'on met dans le sac. C'est toujours la recommandation, le plus léger possible. Puis ça, là, il y a des choses qu'il faut faire des choix à un moment donné. Il faut tout choisir, le matériel, pour que ça soit léger, puis en même temps, avoir tout ce qu'on a besoin pendant 4, 5, 6, 7 semaines. Là. Ça fait que les sites Internet, les lectures nous aident beaucoup, les recommandations des gens, on les prend, puis là, on se dit, ah, ben je vais juste mettre ça de plus, puis ça de plus. Puis finalement, on en enlève, puis ça va bien.
Avez-vous enlevé des choses de votre sac, débarrassé des choses de votre sac quand vous étiez sur le chemin de Compostelle lui-même?
Pas volontairement. Il y a des choses qu'on, des choses qu'on a perdues, qu'on a laissées par en arrière. C'était pas des choses essentielles. Les choses essentielles, comme le passeport, le portefeuille, on portait toujours sur nous. Puis dans le sac à dos, ben ça, non, on a manqué de rien. Puis on s'est bien rendu au bout avec ce qu'on avait. Alors les recommandations qu'on avait reçues étaient très bonnes de ce côté-là.
David, toutes les parties de ton corps ont bien marché, ont bien fonctionné pendant tout le trajet?
Toutes les parties ont suivi. Il y en avait qui suivaient moins vite que d'autres. dans les appréhensions avant le voyage, j'ai parlé tantôt de question de santé. Sur le voyage, ça s'est très, très bien passé de ce côté-là. Beaucoup de gens se disent, eh bien, est-ce que je suis capable de le faire? Je crois que la réponse est certainement. C'est qu'il y a tellement de façons différentes de faire le chemin. Il y avait sur le chemin des gens, même infirmes, qui le faisaient par autobus, qui suivaient. Il y en avait qui étaient capables de faire 5 km par jour. Eh bien, ils faisaient ces 5 km-là et l'autobus les transportait plus loin. Claire a dit tantôt, eh bien, 800 km, ça ne se fait pas dans un jour, ça se fait un pas à la fois. Et si vous comptez à peu près, on parle d'à peu près 1 million de pas. Et tu te dis à chaque pas que tu fais, eh bien celui-là, je ne le ferai plus parce qu'il est fait.
Je me rapproche de ça.
Absolument, absolument. Également, on a voulu profiter de l'expérience des autres. On a eu beaucoup de parrains ici. On a rencontré Clovis et Maryse, et on a rencontré également Gilberte et Gérard de Tracadie. Je remercie énormément des conseils qu'on a reçus de ce côté-là. J'ai même reçu ma coquille de Gilberte de Tracadie, et tranquillement, elle a fait le chemin de l'Espagne. Disons, la coquille, ça fait partie des symboles de la route, comme le bâton, comme le bourdon, on appelle. Il y a également le grand manteau. Nous autres, c'était un manteau plus court pour se protéger de la pluie. Il y a le chapeau. Le soleil peut être très chaud parfois. Alors, ce sont toutes des choses que nos parrains et marraines nous ont données.
Bon, on prend une préparation physique, on fait de la marche quand même. Pour le chemin de Compostelle, quand on sait qu'on va marcher 800 km, il faut se préparer physiquement. On se prépare, j'allais dire, intellectuellement, parce qu'on fait des recherches. Mais vous n'êtes pas perdu. Comment est-ce que vous savez aller, comment on va du point A au point B, Claire?
Ça a été une belle découverte, parce que autant on avait des guides, des écrits là, qu'on suivait, puis ça décrivait tout le chemin. On s'est rendu compte là-bas qu'on n'avait pas besoin de ça. On l'appréciait pour l'histoire, l'art, les choses qu'on allait rencontrer, beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais sur le chemin même, c'était toujours indiqué les fameuses flèches jaunes qu'on pouvait suivre d'un pas à l'autre, ou des fois c'était les stèles, il y avait les coquilles. Alors, si on arrivait à un coin de rue puis qu'on savait pas notre chemin, ben on regardait à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça pouvait être sur la route même, sur le bord d'un édifice, un peu partout. Ben, nos flèches jaunes nous ont guidés de Saint-Jean-Pied-de-Port là-bas jusqu'à Santiago.
David, à la réunion, dimanche dernier, à l'hôtel L'Habitant à Richibouctou, des gens qui avaient fait Compostelle, vous avez porté un témoignage. Et une des choses que tu as dit, c'est que chacun vit une expérience unique. Puis tu as dit, j'ai pas voulu lire ce que les autres avaient vécu et ce qu'ils avaient écrit. Pourquoi?
Ben, pour moi, c'était très important, pas de répéter l'expérience des autres, mais d'aller voir et de laisser le chemin me dire ce qu'il avait à me dire. Le chemin, il y a toute une mystique autour du chemin. Sur le chemin, on a rencontré des gens qui étaient des marcheurs professionnels qui avaient fait le chemin de Compostelle, qui avaient fait le pèlerinage à Rome, au tombeau de Saint-Pierre. Il y en avait qui avaient fait le pèlerinage à Jérusalem. Ce sont les trois grands pèlerinages. Il y en avait même qui avaient marché au Tibet. Ces gens-là vivaient une expérience tellement profonde et c'était un peu, je ne voulais pas limiter l'expérience, garder l'esprit autant ouvert que possible. Et ça a permis ceci de goûter à une foule de surprises sur le chemin, des rencontres totalement inattendues, des bontés de gens que tu ne connais absolument pas. Je donne un exemple ici. À un moment donné, le portefeuille était vide. J'ai été à la banque pour essayer de retirer de l'argent et la caisse à cette banque-là n'était pas connectée à Interact. Alors, j'ai rencontré une personne que j'avais vue une fois auparavant. Elle m'a dit, tiens, voici 100 euros. On me l'a donné en cas d'urgence sur le Camino. J'ai dit, on se reverra peut-être pas parce qu'on se croise et on se repère. Oh, elle a dit, pas de problème là, elle me donne son adresse, elle a dit, quand tu auras la chance, tu me le retourneras. Alors voilà une partie du chemin, une des surprises du chemin.
Claire, as-tu l'impression que quand on fait le chemin de Compostelle, ça nous amène un petit peu hors du temps, que les préoccupations des problèmes quotidiens, ça change énormément, ça te sort du temps?
Ben, absolument. En fait, quand on est là, quand on fait les distances, quand on marche, même si on était là en couple, souvent on marchait un devant l'autre ou à une certaine distance, ça fait qu'il y a beaucoup de temps de penser, il y a beaucoup de temps de solitude, il y a beaucoup de temps de réfléchir, puis on n'a rien autre à faire cette journée-là que de marcher. Ça fait qu'il n'y a pas de ménage à se faire, il n'y a pas de magasinage. On se retrouve dans le temps, puis on réalise qu'on est sur les mêmes chemins qu'il y a des mille années, puis qu'on a préféré les mêmes pas que les pèlerins d'autrefois. Des fois, le frisson m'en passait, là, parce qu'on réalise qu'on est dans les mêmes endroits, puis ça nous transporte, là. C'est spécial.
Souvent, quand les gens font le chemin, pas en train de parler du chemin de Compostelle, ils ont l'impression qu'on est à longueur de journée dans les montagnes, perdus dans le fond des bois, un petit peu comme sur le chemin des Appalaches. Est-ce que c'est le cas?
Pas tout à fait. Il y a des montagnes, bien des montagnes. Il faut le dire vite, là, quand ils nous parlaient de montagnes, on n'est pas des alpinistes, là, puis on n'était pas équipés pour ça. C'est quand même tout le long des très, très beaux sentiers, avec toute une variété de terrains qu'on traverse. Mais même dans les montagnes, parce qu'on a commencé nos premiers jours dans les Pyrénées, puis ça, c'était incroyable, c'était fantastique. La température était de notre côté aussi. Puis après ça, il y a des endroits où c'est presque faire les prairies. Moi, souvent, je faisais la comparaison avec ici. Là, je disais, là, on a prémonté la côte du couvent d'Alousie. Là, on est dans les Appalaches. Là, on est au Mont Carleton. Mais des fois, le Mont Carleton, c'était comme si on montait et on descendait quatre fois là, dans la même journée. Il y avait des défis, puis il y a d'autres journées où tu n'avais même pas à t'occuper de ça, c'était juste marche, marche, marche.
David, avais-tu l'impression que les montagnes, c'était facile comparé à la Meseta, par exemple? La Meseta, c'est un terrain plat, c'est un petit peu... Comme Joanne fait, on peut peut-être comparer ça aux plaines, aux prairies canadiennes.
Ben, disons, pour moi, les Pyrénées me faisaient peur.
C'était une de tes appréhensions.
Oui. Puis, rendu là, ça s'est fait très, très bien. Nous avons été prudents. On est arrêté à Orisson, qui était seulement qu'à 8 kilomètres dans les Pyrénées. Donc, ça a été une très petite journée, cette journée-là. Ensuite, la deuxième journée, on a traversé les Pyrénées. Très souvent, on s'apercevait que la descente était plus difficile que la montée. Une chose, on avait l'impression, lorsqu'on regardait sur notre carte et que ça annonçait qu'on allait descendre cette journée-là, on réussissait toujours par grimper en bas. il fallait monter pour descendre, même, ok. Maintenant, pour la variété des routes, c'était on a fait des sous-bois, on a fait des petits chemins de campagne. On suivait au bord des champs, au bord des vignes. Des fois, on grappillait en passant. On a fait des chemins rocailleux.
C'est pour ça qu'il y aura un petit peu moins de vin en Espagne cette année.
Absolument.
Il y en avait moins sur notre chemin, puis je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelqu'un en avant de nous autres. Alors voilà, et parfois également, on suivait des ruisseaux, on disait, eh bien, ah, voilà, on est à Val d'Amour, excepté que les montagnes sont à 2X ou à 3X. Okay. Alors voilà, c'est un petit peu le genre de route.
Comment vous avez vécu la meseta? Meseta, il faut dire en espagnol, ça veut dire la table, c'est un terrain plat. Comment est-ce qu'on vit la meseta? Comment on se sent moralement ou physiquement quand on traverse la meseta?
Disons, pour moi, c'était une région où les pieds me dérangeaient beaucoup. Moi, j'ai aimé quand même cette section-là. C'est, disons, c'est un petit peu comme la vie quotidienne sans gros défis pour un certain temps. On a été particulièrement chanceux parce qu'on l'a fait à sec. Ça peut être très boueux lorsqu'il y a de la pluie. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette section-là.
Joanne, est-ce que le soleil a toujours été au rendez-vous?
Pour la plupart du temps, le meseta, là, quand on parlait meseta, soleil, là, ça risquait d'être une combinaison assez pénible. On a été chanceux de ce côté-là qu'il y avait du soleil, mais quand je regardais mes notes, là, c'était toujours soleil avec une brise fraîche. Alors, on n'a jamais pâti, comme on dit, sous le soleil. Là. Puis ça, c'était une de nos craintes en partant, là, parce qu'on avait choisi d'y aller en septembre-octobre pour éviter justement les grosses chaleurs, comme il peut y avoir en Espagne. On a été choyé de ce côté-là, en début de marche. À la fin de la marche, mais on vous le dira plus tard, là, c'était un autre défi là, à cause de la pluie. Mais la meseta, pour moi, c'est quand je marchais, puis là, tout d'un coup, j'arrivais, on regardait en avant de nous autres, puis à perte de vue, on voyait des champs fauchés, parce qu'à l'automne, les foins ou les céréales étaient coupés. Puis marche, puis là, tiens, on se tournait par en arrière, puis on voyait ce qu'on avait marché, là, puis c'était... C'était des beaux points de vue, là. On a pris des photos classiques là, du chemin, là, mais c'est un terrain spécial aussi, là.
Non, le chemin de Compostelle, c'est une expérience physique. Il faut quand même marcher 800 km, donc le corps est beaucoup impliqué. Là. Toutes les parties, même celles qui fonctionnent moins, il faut qu'ils viennent pareil. C'est des paysages. C'est un pays différent d'une autre, mais comme j'ai remarqué que vous avez fait, David le fait particulièrement bien, c'est qu'on associe toujours ça. Ah tiens, ce paysage-là, il ressemble à Sainte-Marie-de-Ken. Ça ressemble à Val d'Amour. Du côté historique, on traverse quand même toute une série de petits villages. C'est comme un chapelet de villages tout au long du chemin. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça une fois que c'est fini?
Ça, c'est... Une des choses qui m'ont le plus pris sur le chemin, c'est à beaucoup d'endroits, tu sais que tu marches sur les traces de millions et de dizaines de millions qui ont fait ce chemin-là avant. L'expérience à ce moment-là était beaucoup plus un plus gros défi qu'elle l'est pour nous autres. On dit qu'à certaines époques du Moyen-Âge, il y en avait jusqu'à 10% qui ne revenaient pas, qui restaient en chemin. On rencontre beaucoup d'anciennes hôpitaux sur la route. À Burgos seulement, on dit qu'il y en avait 32 hôpitaux pour accueillir les pèlerins qui étaient malades et soit de la peste ou de différentes maladies qu'on pouvait prendre sur la route. C'est un chemin de foi lorsqu'on voit ces cathédrales-là, le plus petit village qui a une église, c'est incroyablement grande. Chacune de ces églises-là renferme des trésors artistiques incroyables. Des églises les plus simples, les plus dépouillées, souvent c'est celle-là qui m'attirait le plus. On a des églises très ornées, du style baroque. Il y en a énormément, mais ce sont les petites églises simples, dépouillées, pierres qui ont un...
Est-ce qu'on apprécie plus tout ce qu'on voit? Plus on est renseigné, plus on apprécie?
Bien, c'est pour ça que quand je parlais du guide qu'on avait, quand on faisait notre planification pour le lendemain, On essayait de faire notre lecture pour voir, bon, là, on va traverser tel village ou telle ville. Puis on regardait ce qui avait été écrit, puis l'histoire, et beaucoup, tout le long du chemin, il y a des légendes, de choses qui se sont passées, puis des symboles de ces légendes-là. Fait que ça nous permettait de, quand on arrivait ou quand on traversait telle ville ou tel village, de savoir, ah oui, il s'est passé tel événement, ou telle bataille, ou telle conquête, puis... Ça avait toute une autre signification là, que juste le traverser pour rien. Faut dire que partout en Europe, et cette partie-là de l'Espagne est très riche en histoire. Et je me dis plus qu'on... Pour ça, les lectures que j'avais faites ou que je faisais en cours de chemin ont porté fruit. Là,
ouais. On n'a pas, David, en Europe, la même mentalité qu'ici, parce que j'ai vu, en traversant un petit village cette année, tu as dû traverser là aussi, c'est une église qui datait du 13e siècle et il n'y avait pas de pour la démolir, on est en train de la rénover. C'est une mentalité complètement différente de la nôtre. Claire, est-ce que la langue a causé un problème? Parce que, je ne sais pas, je ne vous ai jamais demandé, est-ce que David parle espagnol?
Même pas dans ses rêves.
Ça doit quand même créer des barrières, ça?
Une certaine barrière, on avait quand même essayé d'apprendre un peu l'espagnol pour se débrouiller, puis ça allait très bien pour lire l'espagnol, c'est assez proche de la langue française. Ben c'est certain qu'on ne parle pas ou ne comprend pas l'espagnol couramment, puis ça a été comme peut-être un manque de mon côté, surtout quand on arrivait dans des petits villages, puis les gens à qui on aurait voulu jaser ou qui nous jasaient, qui nous arrêtaient pour parler, puis donc on ne comprenait pas du tout. Mais sur le Camino, avec les autres pèlerins, souvent on se débrouillait parce qu'on trouvait une langue commune, soit le français ou l'anglais, pour pouvoir parler. C'est un des regrets, ben c'est pas un gros regret, mais un des regrets que j'ai, c'est que je parlais pas couramment l'espagnol.
Heureusement qu'on avait nos mains.
Oui, c'est vraiment le cas. Mais quand même, il y a quand même moyen de communiquer.
Ah, absolument, absolument. Il y a des choses, on apprend, comme dire, on avait un petit dictionnaire qu'on cherchait les mots, qu'on trouvait les mots qu'on avait besoin, puis c'était ça. Finalement, ça n'a pas été une barrière, ça n'a pas été une inquiétude tout le long du chemin.
David, qu'est-ce qui va te rester de cette expérience sur le chemin de Compostelle?
Au niveau personnel, disons, il me semble qu'il y a eu des choses qui se communiquent difficilement, mais un regard différent sur la vie, je crois, définitivement. Ça, c'est une des choses. C'est un petit peu également avoir fait cela jeune. Je crois que mes cours d'histoire auraient été très différents. C'est un petit peu apprendre l'histoire par les pieds. C'est aussi important que l'apprendre par la tête, mm-hmm. souvent. Ça fait plus comprendre, par exemple, lorsque Napoléon a traversé, a fait sensiblement le même chemin qu'on faisait lorsqu'il a conquis l'Espagne. Et ça fait comprendre également un peu plus le ressentiment que les Espagnols témoignent parfois. Il y a encore des blessures de l'histoire qui ne sont pas cicatrisées, mm-hmm. et tu le sens. Ouais. Ce sont des choses du genre qu'on peut réaliser là-bas. Mais je crois que de tout ceci, c'est le pèlerinage n'est pas fini. Je crois qu'il commence lorsqu'on sort de là. Si on ne peut pas aller au Camino, bien on amène le Camino avec nous autres. Mm-hmm. Et je crois qu'il nous accompagnera, toujours d'une façon ou de l'autre.
Avez-vous transcrit des choses pendant votre pèlerinage? Aviez-vous comme l'habitude de beaucoup de pèlerins tout au long du chemin de prendre des notes, écrire un journal? Allez-vous publier?
Disons, moi, je n'ai pas l'intention de publier. Comme ma partie écrite, je l'ai faite plutôt par courriel, et Claire, eh bien...
Ben, c'est ça, David s'occupait du courriel. David aime un petit peu l'informatique, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Il y avait un petit peu d'épices d'humour dans
ses
courriels.
Oui, puis de cette façon-là, on savait qu'on n'était pas tout seul à faire le Camino, parce qu'il y avait plein de gens qui lisaient aussi nos courriels, puis qui nous envoyaient des réponses aux courriels. C'était très intéressant. Moi, de mon côté, j'essayais chaque jour, chaque soir, d'écrire ce qu'on avait vu, les expériences, les rencontres qu'on avait faites, puis c'était précieux, précieux. Puis quand on est arrivé à la maison, puis que j'essayais de je les relisais, puis je me disais, ah, c'était-tu là que ça arrivait, ça? Puis c'est-tu là qu'on avait mangé ça, qu'on avait vu ça? Puis sans notre mémoire fait défaut, c'était tellement bourré de choses, là, que je pense que c'est encore, on est encore après tout revivre ça. Puis comme David dit, ça va durer longtemps, longtemps. Pour publier, ben ça, c'est une autre chose. Je pense que la publication se fait premièrement dans nos cœurs, puis dans nos têtes, puis avec notre famille, avec nos proches, là. Fait que...
Moi, il y a une chose que j'ai hésité beaucoup, c'était apporter une caméra ou non. Je me rappelle, beaucoup de souvenirs de jeunesse sont beaucoup plus beaux sans photo, parce que tu peux les embellir. Alors, j'hésitais un petit peu à mettre ça, et bien tu fais un cadre et tu dis c'est ça, mais c'est ça et plus. Il y a toujours Photoshop, là, tu peux embellir tes photos aussi. Donc, je suis content quand même que Claire a porté, on a pris plusieurs photos, mais les plus belles sont en holà et non pas sur papier ou dans la caméra.
Le Bouddha Fumero, as-tu vu l'utilité de ça au Moyen-Âge? Comment il a appelé ça, Joanne? Comment il a appelé ça, Claire?
Moi, je me rappelle plus la description en français que le
Bouddha Fumero.
La chaudière à boucan, comme on disait là-bas.
Et c'est un encensoir de grand monde, voilà. Ça.
La fameuse encensoir qui mesure au-dessus d'un mètre de haut, là, près 3-4 pieds de haut, qui font à la fin de la messe du pèlerin. Puis nous autres, on a eu l'occasion de la voir en action. Là, à la messe, quand on a été le midi à notre arrivée à Santiago. Puis, disons, ça a peut-être encore son utilité parce qu'il y avait des... Dans l'ancien temps, on disait que c'était pour purifier les âmes et aussi chasser les senteurs.
Ben, c'est plutôt ça.
Plutôt chasser les senteurs. Mais des senteurs des pèlerins, ça faisait des jours, des semaines, des mois qui étaient sur le chemin. Puis il y en avait encore de ces senteurs-là à la cathédrale.
Faut pas oublier qu'on sortait d'une semaine de pluie où on n'avait pas pu sécher notre linge.
Allez-vous donner des conférences, des causeries? Est-ce que les gens pourront un jour vous entendre parler du chemin de Compostelle puis voir les quelques photos que tu as prises de façon...
Rien de planifié encore dans ce sens-là, mais ce n'est pas impossible.
Tu te laisserais organiser.
Je me laisserais coaxer, oui.
Ouais, OK.
ce qui est intéressant quand même, qui s'organise de plus en plus, c'est l'association acadienne des Amis du Camino. Puis ça, on a eu le plaisir d'aller à la rencontre, comme Clovis disait, dimanche passé. Puis on voit les yeux pétillants des gens, ou aussi des appréhensions des gens qui se préparent l'année prochaine, ou au printemps, ou à l'automne, d'y aller. Ça fait que ça, comme nous autres, on a pu profiter des personnes qui ont fait le Camino. Ça nous ferait plaisir de rencontrer ces gens-là, puis leur donner le petit coup d'encouragement, ou... leur parler de nos expériences, tout en leur expliquant ça va être leur expérience.
Je sais qu'on a déjà eu quelques invitations comme association d'aller faire des présentations à quelques endroits, puis moi j'ai dit d'accord, mais si les gens veulent ouvrir ça au public, disons que vous seriez intéressé d'aller faire une présentation, je sais pas, aux Dames d'Acadie de Grandigue, ben peut-être qu'ils pourraient ouvrir ça au public, puis comme parce que l'autre jour on a fait cette petite rencontre-là, puis on a eu 42 personnes qui ont assisté.
Absolument, absolument. Parce que c'est comme ça que ça se fait de bouche à oreille, puis c'est comme ça qu'on l'apprend puis qu'on en profite.
David, si tu n'écris pas, tu vas au moins peut-être nous parler, puis complémenter ça avec, j'allais dire Joanne, mais je vais dire Claire. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager un petit peu votre expérience avec nous aujourd'hui, avec l'espoir qu'un jour vous allez partager ça beaucoup plus profondément. Lors d'une conférence, puis là, les gens qui sont intéressés. C'est peut-être plus intéressant d'avoir des petits groupes, de quelques rencontres de petits groupes que d'avoir un grand groupe, parce que là, les gens ont moins la chance de poser des questions. Bon camino, buen camino, comme on dit, sur le chemin. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Et ça se poursuit. Merci bien.
Merci, Chloé. Voilà.